Le journal Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Le président américain Donald Trump se dit surpris. Joe Biden, candidat à la Maison-Blanche, a choisi Kamala Harris comme vice-présidente en cas de victoire. Elle est plus que prête, estime Joe Biden, à suivre le portrait de cette sénatrice. Elle risque de ne pas plaire à tout le monde.
Taïwan ne sera pas le prochain Hong Kong. Le gouvernement taïwanais s'inquiète. Depuis l'entrée en vigueur à Hong Kong d'une loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin, les opposants sont réprimés.
Sputnik V, c'est le nom du vaccin contre le coronavirus que la Russie affirme avoir mis au point. Explication de notre correspondant à Moscou.
L'obligation de porter un masque sera étendue. L'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes est prolongée. Nous reviendrons également sur les annonces du Premier ministre Jean Castex hier.
Et les professionnels du spectacle s'inquiètent pour leur activité. Ils ont du mal à y voir clair. Les consignes changent régulièrement.
Nous devrions en savoir plus dans la matinée sur les suppressions de postes et les réductions de vols chez Hop, la compagnie aérienne compte près de 2500 salariés.
C'est un ticket démocrate historique selon Hillary Clinton, une femme qui fera l'histoire en devenant vice-présidente pour Bernie Sanders. Kamala Harris est la colistière de Joe Biden. Le candidat démocrate à la Maison-Blanche a enfin révélé son choix hier, à moins de 3 mois de l'élection présidentielle américaine. La sénatrice de 55 ans se dit honorée d'accompagner l'ex-bras droit de Barack Obama. Le suspense est donc terminé et le résultat paraît logique, Loïc Loury.
Oui, et le CV de Kamala Harris parle pour elle, première femme à devenir procureure générale de Californie, seconde femme noire à siéger au Sénat. Elle est prête, affirmait hier Barack Obama. Sans surprise, Joe Biden désigne aussi une femme noire, un choix logique suite à la vague Black Lives Matter qui a submergé le pays cet été. Parmi les qualités de Kamala Harris, il y a aussi la jeunesse, 55 ans, celle qui manque à Joe Biden, bientôt octogénaire. Et puis, une attitude très combative, c'est un plus face à Donald Trump, on a pu le voir. D'ailleurs, lorsque Kamala Harris, durant la primaire, avait attaqué violemment Joe Biden, même si tout cela semble désormais oublié.
Mais son profil ne fait pas l'unanimité, Loïc.
Non, parce que c'est une centriste comme Joe Biden. Certains espéraient une colistière plus progressiste. Elle est d'ailleurs critiquée pour ses positions trop dures lorsqu'elle était procureure. Cela, a priori, pourrait faire fuir les électeurs les plus à gauche. Mais Joe Biden, visiblement, a estimé que ce serait un mal nécessaire. Avec Kamala Harris, il coupe en effet l'herbe sous le pied de Donald Trump. Lui qui aime à se désigner comme le président de la loi et de l'ordre, il a de quoi faire désormais face à lui. Quant à ses attaques contre la gauche radicale, elles ne tiennent plus franchement la route. Bref, Kamala Harris peut être bientôt la première vice-présidente de l'histoire américaine. Le choix est historique, mais aussi très politique.
Loïc Loury, correspondant de France Culture à New York. De son côté, Donald Trump se dit surpris par la décision de Joe Biden. Le président des États-Unis a trouvé Kamala Harris, je cite, « très médiocre pendant les primaires démocrates ». Ce sera évidemment l'un des dossiers brûlants sur le bureau de Joe Biden s'il est élu. La relation diplomatique entre Washington et Pékin, une nouvelle étape a été franchie ces derniers jours dans le bras de fer qui oppose les deux puissances américaines et chinoises. Un ministre de Donald Trump est actuellement en visite à Taïwan et il ne tarit pas d'éloges sur cette démocratie. De quoi agacer encore un peu plus la République populaire, Stéphane Pambrin.
Pékin n'a pas desserré les dents pendant cette visite de 3 jours du secrétaire américain à la santé à Taïwan. Alex Azar est le responsable américain de plus haut rang à se rendre sur l'île depuis 1979. Cette année-là, les États-Unis avaient rompu leurs relations diplomatiques avec Taipei afin de reconnaître le gouvernement communiste de Pékin comme le seul représentant de la Chine. Mais depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, Washington multiplie les soutiens à l'île nationaliste. Et cette visite historique d'un ministre américain marque une nouvelle étape du bras de fer, cette guerre froide qui oppose la Chine et les États-Unis. Taïwan est la seule démocratie du monde chinois et depuis la mise en place de la loi de sécurité nationale à Hong Kong, c'est Taïwan qui fait office de refuge pour les dissidents persécutés par le régime communiste. Alex Azar a été reçu par la présidente Tsai Ing-wen, célébrant la vigueur de la démocratie taïwanaise et ses succès dans la lutte contre le coronavirus. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères en a profité pour alerter sur le risque d'une invasion de l'île par les troupes communistes. La Chine parle de son côté de provocation inacceptable, allant jusqu'à envoyer ses chasseurs dans l'espace aérien taïwanais afin de montrer que cette bravade ne restera pas impunie.
Et hier soir, l'une des figures de l'opposition hongkongaise, Jimmy Lai, a été libérée sous caution. Le patron de presse, figure du mouvement pro-démocratie, avait été arrêté lundi au nom de cette loi sécuritaire imposée par la Chine. Il s'est rendu tout à l'heure dans la salle de rédaction de l'Apple Daily, son quotidien perquisitionné, et a demandé à ses journalistes de continuer à se battre. Une semaine après l'explosion meurtrière dans le port de Beyrouth, le nombre de victimes s'est encore alourdi. Hier, 171 personnes sont mortes dans la capitale libanaise. Un humanitaire français a été tué lundi au Guatemala dans une embuscade. Un lâche assassinat condamné par Emmanuel Macron, qui tenait hier un conseil de défense à propos de l'attaque dimanche au Niger. Là aussi, des humanitaires sont morts. Ils faisaient partie d'un groupe de 8 personnes, 6 Français et 2 Nigériens, tous tués. Les manifestations reprennent au Mali pour la première fois depuis la trêve annoncée fin juillet. Des milliers d'opposants se sont réunis hier à Bamako pour réclamer la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les appels à la négociation n'ont pas abouti pour l'instant. Vladimir Poutine semble tellement certain d'avoir trouvé un vaccin contre la Covid-19 que l'une de ses filles se l'est fait inoculer. Le président russe affirme que son pays a développé la première formule efficace contre ce coronavirus. Sputnik V, comme vaccin, devrait être disponible cet automne. Un nom patriotique choisi en référence à la conquête de l'espace par Moscou. Le Kremlin, lui, ne communique pas sans arrière-pensée politique, Claude Bruyot.
Installé dans la fonction de promoteur principal du vaccin russe, Vladimir Poutine n'a pas ménagé ses efforts pour vanter les qualités de l'antidote espéré au Covid-19. Le président russe a tout d'abord joué sur la corde sensible et pris le temps de détailler, notamment étape par étape, l'expérience vécue par l'une de ses filles, partie prenante dans la deuxième série de tests. Il s'est assuré également que les pays partenaires de la phase 3 des essais cliniques ne soient pas choisis au hasard, mais correspondent parfaitement aux intérêts stratégiques de la Russie, comme l'Arabie Saoudite, le Brésil et l'Inde notamment. Quant à ceux qui seront associés cette fois à la production des 200 millions de doses cet automne, on retrouve cette fois la Turquie ou encore Cuba. Sputnik V dispose également de son site internet en 7 langues, dont le français, et s'appuie sur des références médias qui, pour le coup, ne concernent pas uniquement les chaînes fédérales russes, mais aussi les grands networks comme CNN ou encore la BBC. Aucune référence, en revanche, au cadre international à suivre pour la production d'un vaccin. Une seule phrase stipule que les données de Sputnik V seront publiées en août dans un grand magazine scientifique.
Quant aux États-Unis, ils multiplient les contrats pour acheter des doses de vaccins contre le coronavirus. Donald Trump en a annoncé un sixième hier pour 100 millions de doses du vaccin expérimental développé par Moderna, une biotech américaine.
France Culture 8h08, Margot Delpierre, le Premier ministre Jean Castex met en garde les Français contre une reprise de l'épidémie.
Il s'est rendu hier au CHU de Montpellier, écoutez.
Je fais le constat, comme beaucoup d'entre vous, d'une moindre vigilance, d'une moindre discipline, d'une moindre solidarité. À la faveur de l'été et des vacances, on observe davantage de rassemblements familiaux, amicaux, festifs, qui sont autant d'occasions de diffusion du virus. Si nous ne réagissons pas collectivement, nous nous exposons à un risque élevé de reprise épidémique qui sera difficile à contrôler.
11 000 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés en une semaine, dont 1400 dans les dernières 24 heures, des nombres en hausse. C'est pourquoi le chef du gouvernement recommande d'étendre le plus possible l'obligation du port du masque et annonce que les rassemblements de plus de 5 000 personnes seront interdits jusqu'au 30 octobre. L'échéance a été repoussée, l'interdiction devait être levée à la fin du mois d'août. Une décision difficile à comprendre pour les professionnels du spectacle, Ilan Malka.
Ils ont surtout, ces professionnels, du mal à y voir clair. Le 4 août, le Premier ministre annonce que dès le 15 août, certains rassemblements de plus de 5000 personnes pourront être autorisés exceptionnellement par les préfets. La règle semble donc s'assouplir. Et hier, face à une épidémie de Covid qui gagne du terrain, Jean Castex durcit au contraire les règles en prolongeant finalement l'interdiction, avec certes toujours des possibilités de dérogation préfectorale. Malika Seguino est directrice générale du PRODIS, le syndicat national du spectacle musical et de la variété.
On demande clairement aujourd'hui de nous indiquer jusqu'à la fin de l'année ce qu'il est possible ou ce qui ne sera absolument pas possible de faire pour qu'on s'organise. On demande effectivement la prolongation de l'activité partielle jusqu'à la fin de l'année et on demande à ce que le spectacle vivant fasse partie intégrante des mesures qui seront prises dans le cadre du plan de relance qui sera annoncé par le Premier ministre.
Les professionnels du spectacle considèrent également que les problèmes dépassent de loin cette question des 5000 spectateurs. Pierre-Alexandre Vertadier est directeur général de Décibel Productions qui organise des concerts.
Dans une salle, on ne peut pas faire de concert debout, ça c'est ce que nous ont dit les décrets. Et pour les concerts avec du public assis, ils nous imposent de faire de la distanciation sociale qui est d'un point de vue à la fois logistique et financier totalement impossible pour nous. Donc dans les faits, il n'y en a quasiment aucun événement qui ne peut avoir lieu. L'interdiction des événements de plus de 5000 personnes, je voudrais dire que c'est anecdotique parce que ça concerne de gros rassemblements populaires sur lesquels il y a potentiellement pour nous le fait de les annuler beaucoup d'argent à perdre. Mais aujourd'hui, on peut tout simplement pas travailler du tout.
Pierre-Alexandre Vertadier estime que les salles de concert pourraient rouvrir en obligeant le public à porter le masque.
Le masque qui s'impose de plus en plus dans notre quotidien. Le professeur Jean-Michel Constantin dirige l'un des services de réanimation de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Selon lui, le masque est fondamental dans les lieux clos, un peu moins en plein air si l'on respecte certaines conditions.
Sur le plan scientifique, je n'ai pas notion qu'il y a un réel rationnel à faire porter le masque à l'extérieur. Pour m'expliquer, je n'ai pas notion qu'il ait été publié des cas de contamination de cluster ou même de contamination un peu plus simple en extérieur. Parce qu'en extérieur, il y a des flux aériens, le risque est nettement moins important, on n'est pas dans des zones fermées. À mon sens, si c'est le message qui est envoyé de dire « attention, mettez le masque parce qu'il y a une circulation virale », ce message, il est important. Et c'est important, ce qu'a dit le ministre, de dire « on bloque les rassemblements de plus de 5000 personnes », bien entendu. Mais dans les rassemblements de 10-15 personnes au sein d'une famille ou entre amis, si on ne se lave pas les mains, si on partage les mêmes verres, si on reste à côté sans distanciation physique, parce que ce qui marche, c'est la distanciation physique. Et si on ne fait pas attention à ça, on risque d'avoir des contaminations à ce niveau-là. Et donc, je trouve que c'est un peu infantilisant de dire « mettez le masque tout le temps ». Ce n'est qu'un des maillons de la lutte contre la dissémination virale.
Vous, en tant que spécialiste, donc vous dites le masque, c'est intéressant dans les milieux clos, quoi, finalement, c'est ça ?
C'est fondamental dans les milieux clos. C'est quelque chose qu'on a expérimenté très tôt dans les hôpitaux. Les premières contaminations s'étaient faites dans des réunions de peu de personnes. Et on n'a plus ces phénomènes-là à l'intérieur des hôpitaux parce que tout le monde porte un masque en permanence en milieu hospitalier. C'est une obligation. Sinon, on a des cas. Et on a vu que dès que le masque est obligatoire, il n'y a plus de contamination dans les services.
Jean-Michel Constantin, interrogé par Tara Schlegel. Les salariés de Hop attendent l'ouverture du CSE. Un comité social et économique se réunira dans une heure pour discuter de l'avenir de ces 2420 salariés de la filiale régionale d'Air France KLM. La direction doit détailler les chiffres des suppressions de postes ainsi que les réductions de vols prévues, Annabelle Grelier.
Le plan de départ volontaire prévoit la suppression de 1007 emplois chez Hop, soit la moitié des effectifs de la filiale. Une filiale déjà déficitaire avant l'épidémie, accusant 80 millions de dettes l'année dernière. La direction a chiffré son plan de restructuration. Il concerne précisément 404 postes de personnel au sol, 286 de personnel navigant commercial et 317 de personnel navigant technique. Dans la mesure du possible, ces départs se feront sur la base du volontariat, mais la direction n'exclut pas de passer par des départs contraints en 2023 si nécessaire. Les premières suppressions de postes n'interviendront qu'en début 2021 et devraient concerner de nombreux départs à la retraite. La direction de Hop projette également de réduire sa flotte pour passer de 71 à 32 avions d'ici 2023. Qui dit moins d'avions dit aussi moins de lignes, 40% de vols nationaux en moins. La stratégie étant de recentrer la compagnie sur Roissy et Lyon et de fermer les sites techniques de Lille et Morlaix dans le Finistère. Les vols au départ d'Orly vers Mulhouse, Clermont-Ferrand et Nantes devraient ainsi être abandonnés au nom de la transition écologique. Rappelons que le gouvernement a exigé en contrepartie de son aide de 7 milliards d'euros à Air France l'abandon des liaisons desservies en moins de 2h30 par le TGV.
Annabelle Grelier. Près de 5 tonnes de poissons morts ont été découverts dans les Ardennes. La rivière de l'Aisne est polluée, mais l'origine est encore inconnue. Une enquête est en cours. Toutes les activités sportives, la pêche notamment, sont fortement déconseillées. À l'île Maurice, les eaux cristallines sont un peu plus salies à chaque heure qui passe. passe, le bateau échoué qui déverse son carburant risque de se briser. Des experts de l'ONU sont arrivés hier sur l'île pour participer aux efforts et tenter de limiter les dégâts. En France, les orages continuent d'arriver par l'ouest et ce n'est pas de refus. Les températures baisseront demain. En attendant, il fait encore très chaud aujourd'hui. 13 départements du nord de la France sont en vigilance rouge canicule. Météo France prévoit cet après-midi 32 degrés à Lille, 33 à Paris, 34 à Strasbourg et 35 à Lyon.